finalement pas de remise de peine. Ceux qui ne veulent pas faire de business. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 12 novembre 2021. En direct de Washington, Idrissa Sidoudia, bonjour.
Bonjour Idrissa, ici Mouhamadou Oumfa.
Nous commençons par les titres, Mohamed.
Oui, le président français Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui ses homologues burkinabés, tchadiens et nigériens pour évoquer la situation au Sahel.
Le Mali et la Russie se disent résolus à poursuivre leur coopération militaire en raison d'un risque terroriste renforcé par le retrait partiel des troupes françaises.
300 mercenaires pro-Haftar partiront à la demande de la France, pays hôte ce vendredi d'une conférence internationale sur la Libye, selon le camp de l'homme fort de l'Est libyen.
Le général Abdel Fattah al-Burhan, auteur du putsch au Soudan, annonce un nouveau conseil de transition, sans le bloc réclamant un transfert du pouvoir aux civils.
Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, doit visiter le Kenya, le Nigeria et le Sénégal la semaine prochaine.
Le sommet virtuel entre le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping devrait avoir lieu lundi selon des médias américains.
Et puis nous espérons avoir notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Alors pour l'instant, le journal.
Oui, Idrissa. Les chefs des diplomaties russes et maliennes ont réaffirmé jeudi leur volonté de poursuivre le partenariat militaire entre les deux pays, arguant d'un risque terroriste renforcé par le retrait partiel des troupes françaises.
Chaque fois que le Mali a été dans des situations difficiles depuis notre indépendance, la Russie a toujours été avec nous. Nous sommes dans une situation difficile et nous nous tournons encore vers cet ami pour qu'il puisse nous aider à en sortir, a déclaré le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop lors de négociations à Moscou, précisant que jusqu'à 80% des équipements militaires de son pays sont d'origine russe.
Son homologue Sergueï Lavrov a indiqué que Moscou continuerait de livrer des équipements, des munitions, des armements et à former des officiers maliens pour que Bamako puisse se défendre efficacement contre la menace terroriste. Ces derniers mois, les relations entre la France, ex-puissance coloniale et partenaire historique, et le Mali se sont dégradées après un nouveau coup d'État à Bamako.
Dans la foulée, Paris a entrepris en juin de réorganiser son dispositif militaire au Sahel et s'est retiré de certaines bases maliennes. Avec ce retrait annoncé, les terroristes se sentent de plus en plus à l'aise au nord du Mali, a soutenu hier Sergueï Lavrov. Lui et Abdoulaye Diop ont également démenti tout contact entre Bamako et des sociétés militaires privées russes, une possibilité qui inquiète Paris.
Le président français Emmanuel Macron recevra ce vendredi ses homologues burkinabés Roch Marc Christian Kabore, tchadien Idriss Déby et nigérien Mohamed Bazoum pour évoquer la situation au Sahel. Selon l'Élysée, cette réunion est organisée dans la matinée en marge d'une conférence internationale sur la Libye et le Forum pour la paix. Elle portera sur la dimension régionale de la crise libyenne, a précisé une source proche de la présidence. Elle intervient alors que les relations entre la France, ex-puissance coloniale et partenaire historique, et le Mali se sont dégradées après un nouveau coup d'État à Bamako. Il faut préciser, Idrissa, que la vice-présidente américaine Kamala Harris participe à la conférence sur la Libye.
Le camp de l'homme fort de l'Est libyen, Khalifa Haftar, a annoncé hier qu'il allait faire rapatrier 300 mercenaires et combattants étrangers des zones sous son contrôle à la demande de la France, qui abrite donc ce vendredi une conférence sur la Libye, dont l'objectif, selon l'Élysée, sera d'apporter un soutien international à la poursuite de la transition politique engagée et à la tenue des élections selon le calendrier prévu. Plusieurs milliers de mercenaires russes, notamment du groupe privé Wagner, turcs ou syriens, pro-turcs, tchadiens et soudanais, sont encore présents en Libye, a dit l'Élysée.
Lors de la guerre entre les pouvoirs rivaux dans l'Ouest et l'Est en 2019 et 2020, la Turquie avait soutenu le gouvernement basé à Tripoli, tandis que le maréchal Haftar avait reçu l'appui des Émirats arabes unis, de la Russie et de l'Égypte. La Turquie se montre peu pressée d'engager un retrait de ses forces et le Kremlin dément tout envoi de militaires ou mercenaires en Libye ainsi que de tout lien avec le groupe Wagner.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken se rendra la semaine prochaine au Kenya, au Nigeria et au Sénégal où il doit discuter de la lutte contre la pandémie de COVID-19 et le changement climatique, a annoncé hier son porte-parole Ned Price. Des entretiens sont prévus avec chacun des présidents visités, le Kenyan Uhuru Kenyatta, le Nigérian Muhammadu Buhari et le Sénégalais Macky Sall. Au Nigeria, M. Blinken prononcera un discours sur la politique américaine envers l'Afrique. Il s'agira pendant ce voyage de faire avancer la collaboration partagée et aussi de revitaliser les démocraties et la sécurité, une économie globale plus inclusive.
Au Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan, auteur du putsch de fin octobre, a nommé hier soir un nouveau conseil de souveraineté selon un décret lu à la télévision d'État. Le nouvel organe exclut les représentants du bloc réclamant un transfert du pouvoir aux civils. Le général Burhan conserve la présidence du Conseil de souveraineté. Son numéro 2 reste le général Mohamed Hamdan Daglo, qui est à la tête des forces de soutien rapide, des paramilitaires accusés de plusieurs exactions. Comme l'ancien, le nouveau conseil compte 14 membres. Le 14e membre, qui n'a pas été annoncé, doit représenter l'Est du pays et n'a visiblement pas encore été accepté par tous.
Quatre personnalités non partisanes ont été choisies pour remplacer les quatre représentants du FLC, l'Union des forces civiles née de la révolte anti-Bachir, dont certains membres ont été arrêtés le jour du coup d'État. Parmi les quatre nouveaux membres figurent Abou al-Qassem Bortoum, homme d'affaires et ex-député sous Béchir, ainsi que Salma al-Moubarak, issue d'une grande famille soufie du Soudan. Sans passé politique, elle est la deuxième femme du Conseil. Les neuf membres qui se maintiennent au Conseil de souveraineté sont des représentants de l'armée ou de groupes rebelles armés ayant cité fin 2020 la paix avec Khartoum après des années de conflits meurtriers. Le gouvernement, dont plusieurs ministres sont toujours détenus, et le premier ministre Abdallah Hamdok, en résidence surveillée, n'a pas encore été remplacé. Ses membres continuent de se présenter comme les seules autorités légitimes du pays.
Le Mozambique a annoncé jeudi la création d'une nouvelle force spéciale composée de soldats d'élite et de policiers pour combattre les djihadistes qui menacent les projets lucratifs de gaz naturel du pays. Le président Philippe Nyusi vient de nommer ses nouveaux ministres de la Défense et de l'Intérieur après avoir limogé leurs prédécesseurs.
Ces changements semblent signaler un nouveau durcissement de sa répression dans la province de Cabo Delgado, riche en gaz naturel et qui est en proie à des attaques djihadistes depuis 4 ans. On déplore aussi une vague d'enlèvements qui se propage dans le reste du pays. Certaines informations font même état de l'implication de policiers dans ces kidnappings.
Toujours, Maputo n'accepte pas la décision de la justice sud-africaine d'extrader son ex-ministre des Finances aux États-Unis pour qu'il y soit jugé. C'est ce qu'affirme le bureau du procureur général. L'ex-ministre est poursuivi dans le scandale dit de la dette cachée. La République du Mozambique n'accepte pas cette décision, écrit donc le bureau du procureur général. Mardi, l'Afrique du Sud, où l'ex-ministre mozambicain Manuel Chang est détenu depuis 2018, a prononcé son extradition. Le Mozambique dit qu'il va faire appel de cette décision devant la Cour constitutionnelle de Johannesburg et demander le retrait de l'ex-ministre à Maputo.
Son retour à Maputo en poste de 2005 à 2015, Manuel Chang est accusé d'avoir perçu plusieurs millions d'euros de pots de vin. La justice américaine s'est saisie de l'affaire car une partie de l'argent y a transité. Selon la société civile mozambicaine, M. Chang pourrait bénéficier d'une immunité s'il est renvoyé dans son pays. L'affaire concerne des prêts secrets de 1,8 milliard d'euros accordés par des banques étrangères à des entreprises publiques mozambicaines et garanties par l'État, officiellement pour des contrats d'équipement en matériel de pêche et de surveillance maritime. Le scandale dévoilé en 2016 a fait plonger le pays dans une crise financière. L'actuel président Philippe Nyusi, alors ministre de la Défense, est cité dans plusieurs témoignages. Il a été assigné en octobre devant un tribunal à Londres. Des procédures concernant cette affaire sont aussi en cours en Suisse et en Afrique du Sud.
Les États-Unis et le Canada ont recommandé à leurs ressortissants vivant en Haïti de planifier leur départ de ce pays où les gangs armés étendent leur contrôle, causant une pénurie de carburant. Le département d'État exhorte les citoyens américains à planifier leur départ de Haïti dès maintenant par des voies commerciales. La situation se détériore et évolue rapidement. Envisagez de quitter si vous pouvez de le faire en toute sécurité, a pour sa part annoncé l'ambassade canadienne. Les gangs qui contrôlent une bonne partie de la capitale Port-au-Prince bloquent les axes routiers, perturbant depuis plusieurs mois l'approvisionnement en carburant. Les réseaux de télécommunications et les médias ont déjà sensiblement réduit leurs activités à travers le pays. Les banques ne sont plus ouvertes que 3 jours par semaine. Et le fonctionnement des rares hôpitaux encore en activité est handicapé par cette crise énergétique. Un des gangs les plus puissants du pays a menacé de tuer le groupe de missionnaires et de membres de leur famille, 16 citoyens américains et un citoyen canadien enlevés le 16 octobre à l'est de Port-au-Prince s'ils n'obtenaient pas les 17 millions de dollars américains exigés comme rançon.
Les Occidentaux ont condamné hier à l'ONU une instrumentalisation orchestrée d'êtres humains par le Bélarus à la frontière avec la Pologne afin de déstabiliser la frontière extérieure de l'Union européenne. Ils ont appelé à une réaction internationale forte en dépit de l'appel au dialogue lancé plus tôt par le président russe Vladimir Poutine. Quelques milliers de migrants, originaires principalement du Proche-Orient, sont bloqués dans des conditions difficiles à la frontière entre le Bélarus et la Pologne.
La première rencontre virtuelle entre le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping devrait avoir lieu lundi, ont rapporté hier plusieurs médias américains. Ce sera l'occasion pour les dirigeants des deux superpuissances de poursuivre le dialogue au moment où leurs relations sont au plus bas sur toute une série de sujets, du commerce aux droits humains en passant par les ambitions régionales de la Chine.
Ici aux États-Unis, une cour d'appel a accédé hier à la requête de l'ancien président américain Donald Trump de suspendre temporairement la publication de documents de la Maison-Blanche qui pourraient l'impliquer dans l'attaque du 6 janvier contre le Capitole. Ces documents devaient être remis selon un ordre d'un tribunal ce vendredi à la commission spéciale de la Chambre basse qui enquête sur l'assaut. La Cour d'appel a tenu à préciser que sa décision ne doit en aucun cas être interprétée comme une décision sur le fond de l'affaire. Elle a fixé les débats au 30 novembre.
Le régulateur européen a annoncé hier avoir approuvé pour la première fois la mise sur le marché dans l'Union européenne de 2 traitements par anticorps monoclonaux contre le coronavirus, celui du laboratoire pharmaceutique suisse Roche, le Ronaprev, et celui de la société sud-coréenne Celltrion, le Regdavimab. Par ailleurs, le vaccin Covaxin, le premier mis au point en Inde contre le Covid-19, empêche nettement d'être frappé par la maladie, montre une étude réalisée auprès de 25 000 personnes et parue hier dans The Lancet. L'OMS a déjà approuvé ce vaccin prometteur pour les pays pauvres car il requiert moins de logistique que ceux à ARN messager.
Merci Mohamedou Houmfa. Comme les auditeurs ont pu le constater, nous faisons face à quelques incidents techniques, donc nous vous retrouverons quand les choses auront été rétablies.
Tout à
Toutes
fait.
Toutes nos excuses.
Oui, la prochaine édition de Le Monde aujourd'hui, dans sa version habituelle, ce sera à exactement 7h, temps universel.
Thank you.